Alors, il y a deux boutons. Un est marqué stop, l'autre play. Qu'est-ce que vous choisissez?
Oh, je peux toujours play.
Alors, play. Alors, play.
Toujours play. Allons-y. Commençons.
L'audiovisuel public en question en Suisse.
On y va.
Un article de la Constitution fédérale au cœur de la votation du 4 mars prochain, l'article 93. Si le oui l'emporte dans les urnes, il dira désormais ceci: la Confédération ne prélève plus aucune redevance, elle ne subventionne aucune chaîne de radio et de télévision.
La Suisse a ses méthodes. Une initiative populaire est lancée, elle recueille un nombre suffisant de signatures, elle est soumise au vote. Les sujets choisis sont généralement pragmatiques. Cette fois, dans un mois, c'est la redevance. 2,5 fois plus importante en Suisse qu'en France, elle est accusée de nourrir un monstre bureaucratique, un ogre empâté. On connaît l'argumentation, elle opère aussi en France. Seulement, ici, les procédures de décision sont autres. Le président de la République décide d'ouvrir le dossier de son propre chef. Comme dans tant d'autres dossiers, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Il laisse entendre que le service public est une pétaudière. Puis, il observe les réactions tout en se dissimulant derrière un écran de fumée. Le public croit qu'il s'agit d'un problème de personne, un président de Radio France plutôt qu'un autre, ou d'un rapprochement forcé de la radio à la et de la télévision, vous savez, à la façon de l'ORTF des anciens temps. Il s'agit de bien autre chose. Le débat qui a pu s'ouvrir en Suisse permet de le faire comprendre alors que rien n'est clairement expliqué à l'opinion française. Le vrai sujet, le voici. Les écrans de télé ne sont plus fixes. Les nouveaux usages privilégient les écrans mobiles, tablettes, smartphones. En Suisse, comme en France, on nous dit qu'il faut être d'abord, voire uniquement, sur ces écrans, dont il est décidé à l'avance qu'ils assujettiront leurs clients pour l'éternité dans le meilleur des mondes. Cette convergence qu'il faudrait organiser à marche forcée s'appelle le média global, le grand bassin numérique où la règle est qu'il n'y en a pas. Comment le service public, qu'on y plongerait tout entier, peut-il y garder un couloir qui lui soit propre?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Jacques Pilet, bonjour.
Bonjour.
Alors Jacques Pilet, vous avez fait vos débuts à la télévision suisse romande, on va surtout parler des romans aujourd'hui, et puis vous êtes en pays roman, un grand fondateur de titres, l'Hebdo, hélas disparu, le nouveau quotidien qui maintenant est fondu dans le temps, et puis tout récemment, un journal en ligne, Bon pour la tête, ça va être notre devise aujourd'hui. Nous allons parler pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles. Un média pour vous, c'est pas des seniors qui se plaignent et des jeunes godelureaux, ce sont les deux en même temps.
C'est d'abord de l'envie, et l'envie est partagée par des vieux, disons, et par beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le métier. Et quand on travaille comme ça en équipe, eh bien c'est assez agréable.
Alors, la question pragmatique qui est posée dans cette votation qui a lieu le 4 mars prochain est celle de la redevance. Vous êtes en avance sur la France, vous avez une redevance universelle qui n'est donc pas appuyée sur la possession d'un téléviseur.
Oui, la redevance a été introduite déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis 2015, elle est devenue obligatoire pour tous les foyers, que l'on ait ou pas la télévision, qu'on la regarde ou qu'on ne la regarde pas. Et c'est à partir de ce moment qu'un certain mécontentement a pris forme.
Parce qu'elle est lourde, la redevance.
Elle est lourde, elle est à peu près de 400 euros actuellement, un peu plus. Elle va descendre à 320 euros. Mais le problème aussi, c'est qu'elle est perçue par une société privée qui vous envoie une facture. Et quand cette facture, quand cette douloureuse arrive, eh bien, on rejimbe ici et là.
Alors,
chez vous, c'est un peu différent, je crois.
La société s'appelle Bilag. L'initiative s'appelle Nos Bilag. Qui est à l'initiative de l'initiative? Des jeunes, godelureaux?
Des jeunes libéraux. Il faut préciser que la société Bilag a perdu ce mandat, mais une nouvelle société privée prend le relais, ça revient à peu près au même. Qui a lancé cette idée farfelue ou funeste? Ce sont quelques libéraux, jeunes libéraux, Zurichois qui, semble-t-il, autour d'une bière, ont dit « mais après tout, on devrait supprimer cette redevance ». Et puis cette idée, elle a fait son chemin dans les milieux de l'ultralibéralisme, mais aussi dans la mouvance du parti nationaliste et conservateur de Christophe Blocher, notre FN à nous, qui alors avait d'autres reproches à faire aux services publics. La télévision, la radio sont trop à gauche, c'est bien connu, les journalistes sont majoritairement de gauche. Et là, il y avait une rogne qui s'adressait d'ailleurs aussi au directeur général de la Société suisse de radiodiffusion, jusqu'à l'année passée, un grand journaliste, Roger Devecq, qui avait dirigé le Tageszeitung à Zurich, un grand quotidien, qui avait dirigé Die Zeit, l'hebdomadaire prestigieux allemand. Et Roger Devecq était un fervent partisan de l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne. Alors ça, évidemment, les conservateurs nationalistes ne le lui ont jamais pardonné et ont repoussé la version qu'ils avaient contre cet homme sur l'institution proprement dite.
De Zurich, on va passer à la Suisse romande, qui est un marché. Je parle comme il faut parler maintenant, d'un peu moins de 2 millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Y ont poussé dans les années 20 de petites radios locales, notamment à Genève et à Lausanne, qui ont été fédérées par la Confédération en une société suisse de radiodiffusion en 1931. Mais enfin, les deux stations originelles survivaient, se partageaient le grand émetteur de, on dit Sotin. En France, on disait Sotins.
Oui, Sotin était l'émetteur en ondes moyennes qui rayonnait sur toute une partie de l'Europe. Mais c'est fini maintenant, puisqu'on est à l'ère digitale.
Allô ? Ça marche ? Oui ? On y va !
Voici, avec en fond sonore l'indicatif de la station, le témoignage de la première speakerine de Radio Lausanne, Angèle Gaulet. Une jeune femme menue, cultivée, avec lunettes et jolie voix. Alors que le speaker de Radio Genève s'appelle Anatole, Angèle était devenue Hortense.
Je me souviens, nous avions des directives très strictes et il fallait annoncer « Veuillez écouter » et « Vous avez entendu ». Il ne s'agissait pas de dire « Vous venez d'entendre », ça n'aurait pas été admis. D'ailleurs, essayons d'imaginer un concert de l'époque, des années 30. Eh bien, j'aurais un disque sous la main et j'annoncerais comme ceci. Enfin, j'annonçais. Veuillez écouter, mesdames et messieurs, Le Vieux Château, extrait de Un mois de vacances de Jean Nohain, musique de Mireille, interprétée par Pils et Tabet.
Alors, toujours le même reproche, d'ailleurs, qu'on sent déjà, là, inscrit dès les années 30, c'est empesé, la distraction elle-même est conventionnée. Alors, il y a le triptyque qui joue en Suisse, comme à la BBC et dans tous les services publics européens qui limitent peu ou prou, informer, distraire, cultiver.
C'est cela. Le triptyque reste valable.
Alors informer, expliquez-nous, vous qui êtes un grand journaliste suisse roman, Jacques Pilet. Informer avec neutralité, informer avec objectivité?
Alors bien sûr, c'est dans les principes même de la Société suisse de radiodiffusion, on doit apporter une information équilibrée, c'est-à-dire donner la parole aux uns et aux autres. Bien sûr, les journalistes sont assez proches des hommes politiques de tous les bords et utilisent un peu leur vocabulaire. Mais il faut dire aussi que la radio, la télévision aussi, sont devenues de plus en plus curieuses au fil des âges. Très conventionnelles dans les années 50, 60. Dans les années 70, il y a eu des tentatives de secouer la maison, travailler pour les jeunes, avec des réactions très fortes de la droite. D'ailleurs, une émission de la télévision avait été supprimée des collaborateurs licenciés.
Je vous propose que vous preniez pas trop d'avance, je sais que vous êtes toujours attiré par les jeunes. On était dans les années 30, à 1940. Comment est-ce qu'on informe à la radio suisse? Toutes les oreilles se tournent vers la radio suisse.
Alors, dès que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le gouvernement, le Conseil fédéral, a tout pris en main. C'est-à-dire que il n'était plus question d'avoir des petites stations de radio ici et là. Il y avait une radio d'État. D'ailleurs, ce contrôle s'étendait également à la presse écrite. Parce que le gouvernement avait aussi pris conscience de l'extraordinaire importance de la radio dans la montée d'Hitler et comprenait que le message radiophonique était une des clé de la détermination du pays.
Alors, on l'a beaucoup écouté dans les zones où c'était possible en France, la radio suisse à ce moment, et notamment René Paillot, grand commentateur des activités militaires et de la vie politique en Europe nazifiée. C'est un modèle pour vous, René Paillot ?
Dans les circonstances historiques de l'époque, sans doute, c'est un monument, René Paillot, parce qu'il a réussi à faire passer des informations, à les interpréter, à les mettre dans le contexte, en toute sérénité, alors que l'Europe entière était pratiquement sous la coupe des nazis. L'exercice était extrêmement difficile, car la Suisse ne devait pas trop se fâcher avec l'Allemagne, et pas trop se fâcher non plus avec les alliés. Donc il fallait là un jeu d'équilibrisme et de raison que René Paillot a très bien su mener, d'où sa diffusion très largement au-delà des frontières.
Ici Genève, la situation internationale. Voici l'exposé de M. René Paillot.
Mesdames, Messieurs, dans le panorama dramatique de la guerre, les images de France ont pris au cours de la semaine écoulée un relief saisissant. Le désir de la jeune armée française, rééquipée par les soins des Anglo-Saxons, est maintenant réalisé. Cependant, une division blindée dirigée par le général Leclerc a débarqué en Normandie. Des effectifs dont on ignore encore le nombre ont pris pied sur le littoral méditerranéen.
Et dans les studios de la radio suisse, des programmes musicaux où s'illustraient, toujours pendant la guerre, les nombreux chanteurs français exilés comme Marie Dubas.
Maintenant, mesdames et messieurs, voici Marie Dubas, la grande comédienne de la chanson.
On devrait dire aussi, je pense, que c'est par là que tout commence. Dans les faubourgs, quand nous laissons que l'heure soit bonne ou mauvaise, pour rire ou cacher son émotion, le français ne vous en déplaise, elle va chanter, c'est sa façon. Et vive, et bonne, vive la chanson, et vive la chanson française. Sans air joyeux, le temps vous pèse, mais en chantant, le pire est bon, et les plus lourds chagrins s'apaisent au rythme de l'accordéon. Et vire et vole et vive la chanson, et vive la chanson française. D'aussi loin que nous existons, c'est notre drapeau, notre gloire. Depuis Roland, Berthe et Magloire, Charlemagne, le fils Aymon, Corrèze sur la Maison, nos poilus en 1916. Corrèze sous Napoléon, nos grognards sur la Marseillaise. Et vive la chanson française.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes avec Jacques Pilet, journaliste suisse, et au lendemain de la guerre, il y avait de multiples raisons de dire « Vive la radio suisse ». Alors, se prépare une votation le 4 mars qui pourrait mettre fin à la redevance, laquelle fournit 70, 80 ou davantage de pourcentage encore des revenus du service public audiovisuel en Suisse. La redevance, vous disiez, Jacques Pilet, a été mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Jusque longtemps, il y a eu un monopole.
Il y avait un monopole de la radio et de la télévision. Et il a été cassé par un personnage très remuant, un jeune journaliste zurichois, Roger Chavinsky, qui voulait avoir une radio privée. Alors, les textes ne le permettaient pas. Qu'a-t-il fait ? Il a planté une antenne sur un sommet italien à la frontière suisse pour arroser la région, enfin toute la Suisse alémanique. C'était quelque chose de très perturbant, bien sûr, pour cet édifice qui était la SSR. Et comme cet émetteur a eu un certain succès, il a fallu assouplir les règles. Et à partir de 10 ans plus tard, un article constitutionnel a été adopté qui défaisait le monopole.
Vous, alors, il y a eu des... vous direz qu'il y avait aussi du côté roman la naissance de Radio Mont-Blanc qui devait émettre, j'imagine, depuis la France. Et ce n'était pas du tout un pirate qui la dirigeait. C'était Roland Dordain, fondateur de France Inter, qui avait été écarté quand la gauche était arrivée au pouvoir à Paris. Mais ces radios et ces télés qui sont nées une fois que le monopole est aboli, dans le cas de la Suisse romande qui nous intéresse, ne trouve pas un marché suffisant pour réellement exercer une concurrence.
Alors il y a quelques télévisions et radios modestes qui sont détenues par des éditeurs alémaniques. Et puis alors il y a, pour revenir à la Suisse romande, il y a des télévisions locales ou régionales qui ont statut de télévision privée, mais qui néanmoins bénéficient des subventions fédérales et parfois des subventions cantonales pour assurer une information locale de qualité. C'est par exemple Les Monts Bleus à Genève ou Canal 9 en Valais. Ce sont d'ailleurs de très bonnes stations de télévision et de radio. Celles-ci aussi passeraient à la trappe si la SSR était privée de ses ressources.
Oui, parce qu'une partie donc de la redevance, modeste, est versée à des médias jugés méritants. Alors, ce qui est reproché à cette radio et à cette télévision qui exerce un quasi-monopole, enfin, un quasi-monopole, il y a aussi quand même la concurrence étrangère.
Bien sûr, la situation est tout à fait différente de la France, puisque nous sommes submergés par les télévisions françaises, allemandes et italiennes. Et il faut voir les chiffres tels qu'ils sont, ils sont d'ailleurs tout à fait honorables. Le marché de la télévision suisse romande, c'est à peu près un tiers. Hein.
Et la radio
45% à peu près. Le reste étant simplement correspond à l'appétit des romands pour les télévisions françaises. TF1 fait 15%, France 2 12%.
Et par le biais de France Inter, vous vous adressez au public roman.
Peut-être. Il y a beaucoup d'auditeurs romands de France Inter. Et il faut dire aussi que ces chaînes étrangères diffusent des spots publicitaires suisses, c'est-à-dire ponctionnent des ressources publicitaires suisses qu'ils insèrent dans leurs programmes, M6, TF1, etc. Donc il est évident qu'on est là dans un enjeu très très serré, car si le service public de la télévision et de la radio devait disparaître, ou en tout cas amaigrir drastiquement, eh bien les chaînes étrangères en profiteraient.
Mais les motifs ne sont pas seulement économiques dans la lutte contre la puissance de la radio et de la télévision suisse publique. Il y a aussi des motifs politiques. Voici un film qui se situe en 1974, qui s'intitule « Grandes ondes », signé Lionel Bayer. On va entendre un ministre, on dit un conseiller fédéral en Suisse, s'adresser au malheureux directeur de la radio suisse qu'il vient de convoquer.
Et vous, les romans, vous êtes comme les donneuses, les... comment est-ce qu'on dit en français ?
La belle au bois dormant, c'est le conseil fédéral.
La belle au bois dormant, Kinao. Et moi, je veux être le prince. Je veux vous embrasser, monsieur Roulette. Vous comprenez ?
Je crois.
Vous voyez, ma femme est romande. Un homme pris par son travail a besoin d'oreilles. Épouse de conseiller fédéral, c'est une charge, vous savez, monsieur Roulette.
J'imagine.
Elle m'a fait une liste. Voilà. Voilà ce dont les gens ont besoin, Roulette. Un programme qui donne envie de se lever le matin avec la force d'être content d'eux-mêmes en 1974.
Bah écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais réfléchir.
Pas besoin de réfléchir.
Nein, hier spricht nur der Automat.
Positif und important. Ist das klar, Roulette?
Alors, il faut reconnaître à la radio suisse romande le mérite de réagir par la créativité à cette époque, à ces critiques d'une grande banalité. Il y a la première, il y a Espace 2, et puis est créé Couleur 3, qui va être imité en France et qui est considéré comme un modèle de radio jeune.
Oui, et puis il y a également Radio Classique, n'est-ce pas, qui est partagée entre les différentes régions linguistiques. En réalité, donc la SSR diffuse 7 chaînes de télévision et 17 radios, stations de radio. C'est évidemment énorme, et c'est justifié par les régions linguistiques. Et là, je dois dire que c'est assez impressionnant de penser que ce pays accepte de fournir des programmes complets de télévision aux minorités, aux francophones, aux italophones et même aux romanches.
Romanche, dites-vous, qu'est-ce que ça?
RTVG is ons nostro vaccin del di. RTVG, la scorsa nida tu danstia per la nuova legge de radio televisium. Nos ens algordens sur la RTVG, wenn's vos jo pura ventraisans all'urna, 50,08% de questi sumia se vugir en di de sci. La nuova legge de radio televisium is quella volta di men rivede tres Beppel Nair d'un ungla. Al politologue Claude Longchamp va vedit que quartia la votumazium usche.
Journal télévisé en romanche, il y a quelques dizaines de milliers de locuteurs de romanche et des moyens importants qui sont donnés au programme en romanche, l'une des quatre langues nationales, avec un système de péréquation, de solidarité dans la répartition du produit de la redevance.
Tout à fait. On pourrait aussi citer la Suisse italienne, c'est à peu près 350 000 personnes qui habitent en Suisse italienne. Eh bien, il y a deux canaux de télévision, il y a trois radios, et bien entendu que le poids de ces régions ne correspond pas aux moyens qui sont mis à leur disposition par la Suisse alémanique majoritaire. Donc, si vous voulez, le système est basé sur la solidarité entre les différentes parties du pays.
Au fond, ce qui peut fonder encore les membres de la Confédération, c'est le service armé et le service public audiovisuel.
Oui, c'est quelques enseignes commerciales que nous fréquentons tous. Et c'est un peu plus que cela, mais la Suisse est un pays compliqué. Et derrière les beaux discours sur la cohérence de la Confédération, eh bien, il y a des différences de sensibilité, non seulement de langue, mais parfois de mentalité. Et c'est pas facile de faire tenir tout cela ensemble. Et on a besoin, en tout cas, d'espaces communs, d'espaces où on peut se rencontrer. Et la SSR est l'un de ces espaces. Important donc pour la vie politique de ce pays. Sur la perception que les Suisses ont d'eux-mêmes, car c'est cela un service public. C'est cet espace qui offre des repères, qui offre parfois le temps de l'information, de l'enquête, de l'impertinence aussi, car heureusement mes confrères sont plus impertinents que le directeur caricatural du film de Bayer. On a besoin de ce repère qui est un peu partiellement préservé de la pression commerciale et publicitaire.
Mais n'imaginons pas que ce qui se passe autour de cette vocation du 4 mars est seulement limité à des enjeux suisses. On y retrouve la même question que nous avons dans le service public en France. Alors, en Suisse, la télévision et la radio ont été rapprochées en 2010. Dans le cas de la Suisse romande, Lausanne conserve une spécificité dans ses locaux, c'est la radio. Genève, dans ses locaux, c'est la télévision. Mais le véritable enjeu, c'est ce qu'on appelle la convergence numérique, que va vous expliquer le président de la télévision et de la radio suisse, Gilles Marchand. À l'époque, il était pionnier dans ce domaine, il n'avait pas encore pris ses fonctions exécutives.
Les écrans sont en train de sortir des maisons, des foyers, sont en train de se répandre un peu partout en ville. Les écrans, ou plutôt la consommation de la télévision devient mobile. Et donc, il faut être sur ces écrans parce que la vocation de la TSR, c'est d'être là où se trouvent ceux qui la regardent, quelle que soit la manière dont ils la regardent. Et moi, je tiens à ce que la TSR joue un rôle pionnier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de suivre ce qui se passe en Europe et en Suisse, il s'agit d'être devant. Et nous l'avons fait, ça, parce que je crois que l'offre multimédia de la chaîne eh bien, elle est bonne et nous sommes plutôt devant et nous sommes plutôt moteurs au niveau de la SSR. Je dirais même sur la scène francophone, lorsque je compare la situation des chaînes françaises, eh bien, nous avons ici vraiment une longueur d'avance. Il faut la garder.
Alors, efficience de la convergence, qu'est-ce que ça veut dire, la convergence numérique? Parce que nos auditeurs continuent, pour l'essentiel, à écouter de la radio à cet instant précis.
Oui, mais de plus en plus, on vous écoute également sur les podcasts, on vous écoute sur les réseaux sociaux, lorsque l'émission est reprise et relayée. Il y a une multiplication des canaux d'accès aux émissions de radio et de télévision. Et on doit en tenir compte, et là je crois que Gilles Marchand a tout à fait raison. Et il a raison aussi de développer des sites internet liés au titre. Encore que cela crée une concurrence très mal vue pour les journaux, qui de leur côté essaient d'avoir également des sites d'information. Mais ça c'est un autre débat. Mais le mot convergence, il a plusieurs sens. Je crois qu'il y a une vraie justification à réunir des médias autour d'un projet. J'aimerais citer un exemple qui intéressera peut-être les amateurs de votre émission. Il existe une émission qui s'appelle Histoire vivante, qui est déclinée tous les jours à la radio, une fois par semaine sous la forme d'un documentaire à la télévision, est prolongé encore par des articles dans un journal imprimé qui s'appelle La Liberté. C'est très enrichissant parce que chaque média a sa façon d'aborder le sujet. Alors, le sujet est le même entre ces trois médias, mais il est traité différemment.
C'est-à-dire que c'est plus intéressant que, pour moi, de fournir des vidéos où je poserai la question « Est-ce que Charles Le Chauve ressemble à Jean Lebrun, par exemple ?»
Sans doute, sans doute. Et puis, la radio permet de s'étendre un peu plus, d'interroger comme vous le faites, d'écouter. La télévision a d'autres outils et la presse écrite également. Le danger que je vois, parce que cette convergence offre des chances, d'abord de rester en contact avec une nouvelle génération qui consomme, pour utiliser ce terme, les émissions de radio et de télévision différemment, c'est une chance, puis c'est aussi un risque. Parce qu'évidemment que si on pousse jusqu'au bout ce trend qui des fois tourne au fantasme technocratique, eh bien évidemment on risque d'aboutir à une sorte de grande potée.
Potée, vous avez dit.
Oui, une grosse potée. Alors on puise dans cette soupe commune. Et puis, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup au public, parce que le public a déjà aujourd'hui le sentiment d'une redondance de l'info. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, on le bombarde par différents bouts des mêmes informations. Donc je crois qu'il faudrait plutôt cultiver l'approche spécifique des rédactions, le caractère spécifique des rédactions, simplement pour la diversité des médias.
Dites-moi, Jacques Pilet, d'un mot, nous allons avoir un débat à l'Assemblée sur une loi audiovisuelle, vite faite, bien faite, avec l'assurance que cette loi soit votée sans doute au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Quand il y a un vrai débat dans le public, comme autour de la redevance et de la votation du 4 mars en Suisse, on voit les positions évoluer.
Tout à fait, il y a eu d'abord une vague de mauvaise humeur, je dirais, entraînée par des ultralibéraux, mais il y avait une grogne. Et puis, on a parlé de cette radio, de cette télévision. On a aussi évoqué ce qui devait changer, parce qu'elle n'est pas parfaite. Et les réformes à faire, pas seulement les réformes structurelles, d'organisation, mais aussi de contenu. Qu'est-ce que c'est vraiment une télévision de service public? Que doit-elle diffuser en priorité? Et ce débat a fait évoluer les esprits, et aujourd'hui, les sondages laissent entrevoir, bien heureusement, un échec de cette funeste proposition.
Merci à vous, Jacques Pilet. Qu'est-ce que nous avons au programme de La Tête au Carré? Il est déjà 14h et vous écoutez France Inter, mais le programme de Mathieu Vidal.
Ah oui, je vais vous dire qu'on a de l'entraide, voilà. Et vous en saurez plus tout à l'heure.
C'est pas la loi de la jungle, c'est l'autre.
C'est ça.
Loi de la jungle, l'entraide animale, j'imagine.
Solidarité, absolument.
Dans un instant, les informations.